de parler des élections, ce qui est un sujet bien évidemment profondément désagréable. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais dire sur des élections dont celles qui vont arriver nous prouvent encore une fois l'inanité totale. Je me suis dit, je vais parler de gens qui vivent depuis 50 ans sans élection. Ça se trouve sur cette planète, il y a plusieurs endroits, mais il y a un endroit dont vous avez peut-être déjà entendu parler, c'est au Danemark, à Copenhague. Il y a un énorme squat, pour ce qui est de la taille, imaginez les Invalides à Paris complètement squattés, c'est en même encore plus grand que les Invalides, c'est également en cœur de ville, et ça s'appelle Christiania. Christiania a été fondée en 1971. En moyenne, il y a 1000 habitants par an à Christiania. Il y en a un peu plus en été, un peu moins en hiver, mais enfin, en gros, ça reste comme ça. Donc, 1000 habitants, ça fait beaucoup de gens qui ont à décider beaucoup de choses. En plus, ça fait beaucoup de gens qui ont eu à négocier avec la municipalité de Copenhague, avec le gouvernement danois, avec ceci, avec cela. Bref, on peut se dire des gens qui ont eu à prendre des tas de décisions. En 50 ans, pas une seule fois, il n'y a eu un vote ou une élection. Jamais. Ils ont plusieurs formes de meetings. Quand il y a un problème qui est juste un problème vraiment très très local, il y a un meeting de la maison ou du micro-quartier. Si le problème est un peu plus gros, c'est le meeting de quartier. Et même rarement, s'il concerne tout le squat, c'est une assemblée générale. Il y a également une assemblée qui décide des finances, une assemblée qui décide de ceci, de cela. Jamais, nulle part, on ne vote. Alors, parmi les nombreuses raisons pour lesquelles Christiania veut éviter le vote, bon, vous les connaissez certainement toutes, les principales, on ne veut pas de représentants qui après ne nous représentent plus et font ce qu'ils veulent. Il y a une raison, moi, qui m'a toujours frappé, et je la trouve très intelligente et très judicieuse. Là-bas, on dit que si on vote, eh bien, la minorité se sentira toujours spoliée, quelle qu'elle soit, pour quelque problème que ce soit. Donc, il vaut mieux attendre que vraiment une décision soit prise au consensus, parce que, un, comme ça, personne ne se sent spolié, et deux, la décision est réellement appliquée. Et j'en veux pour preuve un moment où Christiania a dû prendre une décision extrêmement lourde, extrêmement difficile. En 1979, sur une population de 1000 personnes, il y avait à peu près 200 junkies. Alors, si jamais il y en a qui ne savent pas ce que signifie le mot, toxico, drogué, à l'héroïne, jusqu'aux yeux, des seringues dans tous les sens. Donc, ça posait un vrai problème. Les gens commençaient à mourir. Cette année 79, il y a eu, je crois, plus de 30 morts à cause des drogues dures. Et donc, il a fallu se décider, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on décide qu'il n'y a pas de drogue dure à Christiania? C'est-à-dire, pour parler franc, est-ce qu'on interdit les drogues dures à Christiania? Donc, une décision qui était extrêmement lourde, extrêmement difficile, qui a été prise au bout de 3 jours de débats intenses où il y avait la quasi-totalité de la population de Christiania à l'Assemblée générale, ce qui ne s'était jamais vu jusque-là. Eh bien, cette décision extrêmement lourde, extrêmement difficile, elle a été prise au consensus. Et c'est une décision parfaitement respectée. J'ai vécu 4 ans à Christiania et j'ai vu une fois quelqu'un qui avait eu la mauvaise idée d'essayer de trouver un peu de poudre blanche à Christiania. Il est ressorti très très vite, très très blanc, en courant vraiment 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 très très vite. Mais le problème, c'est que la terreur que ça lui a inspiré, ma foi, nous avons d'autres raisons de terreur. Alors avant de passer la parole à Serge, je vois en revanche dire quelque chose d'un petit peu rigolo. Juste une seconde. C'est Coluche. Coluche, quand il parlait d'élection, il a dit la chose suivante. Un électeur qui entre dans un isoloir me fait penser à un crocodile dans une maroquinerie. Je vous laisse apprécier.
Moi non plus, j'apprécie beaucoup les crocodiles, mais ça, c'est un aparté. C'est vrai. Voilà, donc, pour en terminer sur les élections, ou pas d'ailleurs, on va voir. Mais enfin, je cite que quand même, il y a une campagne anti-électorale de la Fédération anarchiste qui s'appelle Abstention-Rébellion. Et vous pouvez voir sur un site, qui vous faites abstention-rébellion, sans accent, .org, vous verrez un certain nombre d'informations, de meetings, de choses qui sont organisées en ce moment, voilà. Donc on m'a demandé de parler du nucléaire. Ça me rappelle des vieux souvenirs, puisque j'ai été un de ceux qui, dès l'origine, quand on a lancé le programme en France en 1973, dit que c'était là qu'il fallait vraiment agir. Et effectivement, j'ai fait partie de ceux qui organisaient les manifs à Bugey avec la Charlie Hebdo. Bon, pas de vieux souvenirs. Bon, en tout cas, ça me fait plaisir de... Oui et non, parce que c'était vraiment à ce moment-là qu'il fallait bloquer. On a fait ce qu'on a pu, voilà. Donc, en ce qui concerne le nucléaire et des informations au-delà de ce qu'on va pouvoir échanger aujourd'hui, avec Monique, qui est derrière ses manettes depuis hier, et qui bosse beaucoup et très bien, c'est vrai, hein. Donc, il y a une rubrique qui est assez chargée, je crois qu'il doit y avoir une cinquantaine d'émissions, qui s'appelle « Terre et radioactivité ». Donc, évidemment, aujourd'hui, on va avoir quelques échanges rapides, mais vous verrez beaucoup d'invités qui nous parlent du nucléaire, de ce monde dans lequel on est pour très longtemps, malheureusement. Même si on arrête les centrales, il va falloir s'en occuper pendant un certain nombre de centaines de milliers d'années. Alors, peut-être vous ne serez plus là, je ne sais pas, on verra. Voilà, donc, une petite introduction... avant d'échanger avec Jean-Manuel et Christiane un peu sur l'actualité de nucléaire, aujourd'hui, quand je dis actualité, c'est vraiment ce qui se passe en ce moment. Vous devinez un peu pourquoi. Voilà, un petit rappel historique. J'ai oublié, il y a un jeu, oui, au fait, centrale nucléaire, vous n'avez pas un anagramme là qui irait bien? Non, personne ne connaît. Ben, vous faites la ruine et le cancer et vous verrez que ça marche. Et je blague pas. Hein. Bien. Donc, vous avez vu qu'en ce moment, on risque de manquer de peinture verte. Parce que moi, j'ai connu le nucléaire, c'était quelque chose d'assez méchant, mais maintenant, il y a un truc qui s'appelle le greenwashing. Hein. C'est ça, toi qui connais l'anglais. Et voilà, on est en train de repeindre des centrales nucléaires en vert. Et contre tous, d'ailleurs. Et voilà, la Commission européenne a pensé que c'était une énergie verte, c'était une énergie durable. Alors là, je suis d'accord avec eux. Les êtres radioactifs qui sont autour des centrales, dans les centrales, peut-être autour de nous en ce moment, ça peut aller jusqu'à plusieurs centaines de milliers. Bon, je n'ai pas tous les détails. Enfin, ça, vous pourrez regarder. Donc finalement, ils ne sont pas si bêtes que ça. Hein. C'est durable.
C'est très durable. Hein,
c'est durable. C'est extrêmement durable. Voilà. Et les politiciens, si vous avez remarqué, ils sont tous plus ou moins verts, avec des nuances de vert différentes. Bon, maintenant, tout ça est très à la mode. Je voudrais quand même rappeler un peu d'où cet ensemble vient. Alors, ça va être très rapide. Voilà. Bon, ce que j'appelle, moi, le nucléaire militaro-civil, ben, pour ceux qui connaissent un peu, vous savez très bien que les deux aspects sont totalement liés. Et il y a eu ça. Je vais vous lire deux petites choses qui montrent que quand même il y avait des promesses, puisqu'on parle d'élections, il y a toujours des promesses. Et nucléaire aussi, il y avait des promesses. Moi qui suis plutôt anti-messe, mais bon, passons. Donc, je plaisante pas avec ça parce que c'est vraiment grave.
Chacun sait que les promesses n'engagent que ceux qui y croient.
Voilà. Donc, je vais vous citer trois extraits d'articles et après je vous donnerai la date. L'espèce humaine a réussi à passer à l'âge nouveau, l'âge atomique. Formidable. François. Donc, vous voyez, c'est quand même pas hier. Hein. La nouvelle découverte peut soulever un nouveau monde. Plus de charbon, plus d'essence, plus d'électricité. Après, ils ne comprennent rien, parce qu'une centrale nucléaire, ça fout une électricité. Ne seront bientôt utiles. Ça va être remplacé par le nucléaire. Un souvenir, voilà. Libération. Après cela, qui osera prétendre qu'il y a des limites ? L'humanité. La date, le 7 août 1945. Et qu'est-ce qu'il célébrait, évidemment, je pense dans la salle, vous vous rappelez quand même. Enfin, vous ne l'avez peut-être pas vécu, mais vous en avez entendu parler. Bah, le 6 août 1945, voilà, parce que pour le nucléaire, il fallait quand même expérimenter in vivo. Enfin, in vivo, ils n'ont pas vécu longtemps, malheureusement, les gens d'Hiroshima, voilà. Donc, ils ont servi de cobaye pour une gentille bombe qui s'appelait Little Boy, pour ceux qui ne se rappellent pas. Voilà, donc c'était, vous voyez, ça, c'était vraiment une des promesses de futur pour le nucléaire qui était très bon. Bon, comme l'expérience, il faut quand même, en scientifique, quand on est des scientifiques, il faut quand même faire une expérience une autre fois. Donc le 9 août, d'autres cobayes à Nagasaki ont reçu la deuxième bombe qui s'appelait, tu me bien,
Fatman.
Fatman, merci.
Tu y la étais, petite était, oui, j'y étais, ils m'ont appelé. La petite était petite, partout, la deuxième était grosse.
Voilà, donc. Première promesse, c'était vraiment un âge radieux. Alors, je tiens quand même à dire que Albert Camus a sauvé un peu l'honneur dans le journal Combat, pour ceux qui voudront regarder ce qui a été dit à l'époque. Bien, continuons dans les promesses toujours, et avant d'arriver à l'actualité. Cette fois, on va s'adresser à quelqu'un qui a été élu, démocratiquement, dans un pays démocratique, c'est le président Eisenhower. Le 8 décembre 1953, il s'est adressé à l'ONU, solennellement, dans un discours qui s'appelait « Atoms for Peace ». Peut-être certains, ça leur dit quelque chose. Et là aussi, il y a eu des promesses. Il y a toujours des promesses, hein. C'est formidable. Je ne détaille pas les trois promesses. Énergie quasi gratuite. Bon, je vous renvoie un peu au prix du kilowattheure nucléaire qui n'arrête pas d'augmenter parce qu'on y intègre toutes les choses qu'on n'avait pas intégrées au début, la gestion des déchets, etc. Bon, le problème des déchets, puisqu'on en parle, rapidement résolu. C'est évident, les scientifiques, ils sont bons, ils résolvent tous les problèmes. Voilà, bon, y compris ceux-là. Bon, les habitants de Bure, va falloir leur expliquer pourquoi on leur envoie les flics tous les jours, et pourquoi ils sont complètement... c'est d'ailleurs des gens qu'on va mettre en cabane et tout ça. Bon, je ne détaille pas. D'ailleurs, il y a un petit bouquin que j'ai commis sur Bure qui est à l'entrée, là-bas. Et puis la troisième promesse qui était évidente, l'accident est impossible. Alors je dis accident non, parce qu'il y a tout un vocabulaire. Quand une centrale nucléaire explose, c'est une excursion nucléaire. C'est mignon, hein. C'est tout à fait officiel, hein. C'est pas moi qui... Voilà. Donc voilà, les promesses du discours. Bon, il faut quand même dire, pour les gens qui s'en souviennent, que parallèlement à ce nucléaire soi-disant civil, parce qu'en fait c'était pour fournir ce qu'il fallait pour les centrales, pour les bombes, pour mettre dans les bombes. Et justement, comme par hasard, le nombre d'ogives nucléaires a cru d'une façon absolument énorme à ce moment-là. Voilà. Donc, aucun accident possible. Bon, alors, je passe sur ce qui s'est passé en Russie. Ça a commencé par la Russie. Bon, les plus connus et les plus récents. Tchernobyl, je rappelle les dates quand même. 26 avril 1986, donc environ 36 ans. Et Fukushima, c'est presque l'anniversaire, tiens. 11 mars 2011. Voilà. Donc, on pourrait rappeler un certain nombre d'éléments. Maintenant, tout va bien. On va parler de l'actualité, puisque notre presque ex-président, peut-être futur, je n'en sais rien, c'est notre fusée de sélection, il est à ma droite, a lancé un programme, je crois que c'est en février, 14 février, de 14 réacteurs nucléaires, voilà. Donc il espère certainement avoir des fonds européens, c'est l'intérêt d'être reconnu comme une énergie verte. Voilà, je tenais quand même à rappeler ça, parce que, bon, moi, il y a des choses que je n'ai pas dit, hein, franchement. Hiroshima, c'est un crime contre l'humanité, je le maintiens. Et je ne suis pas le seul. D'ailleurs, pour ceux qui cherchent un peu sur Internet, vous verrez qu'un certain nombre de gens demandent qu'Hiroshima soit un crime contre l'humanité. Voilà.
Si je peux juste ajouter un petit bidule sur Hiroshima. J'ai parlé avec un survivant d'Hiroshima. Quelqu'un, j'ai parlé, c'était il y a presque 30 ans. Il était évidemment très vieux. Un burakumin, un anarchiste japonais, qui, pas de bol pour lui, il avait été à Hiroshima. Il me raconte donc ce qui se passe quand tout d'un coup il voit le grand flash, hein, le fameux grand flash. Puis évidemment, il s'évanouit. Et puis je lui demande, vous vous évanouissez et quand vous vous réveillez, qu'est-ce qui se passe? Alors imaginez, donc c'est un anarchiste japonais. Les anarchistes japonais, ils en avaient pris plein la gueule pendant la Seconde Guerre mondiale, évidemment, dans les prisons japonaises. Ils s'étaient fait tabasser avant. Enfin bref, des gens qui avaient eu des vies horribles. En plus, il était burakumin, donc franchement, les horreurs, ils connaissaient. Et là, je lui demande, mais qu'est-ce que vous avez vu? Et là, je vois cet homme de, je sais plus, 75, 80 ans, avec des larmes aux yeux, et il dit, posez-moi une autre question. Il n'a pas voulu répondre, il n'a pas voulu revenir là-dedans, tellement c'était horrible ce qu'il avait vu. Voilà.
Oui, juste un mot, du coup, je renvoie à une émission qu'on avait faite assez émouvante sur un personnage qui est mort centenaire il y a peu de temps. Il s'appelle le docteur Ida, qui est un japonais qui était à Hiroshima, très jeune docteur qui a survécu et qui était encore vivant pour Tchernobyl, enfin, etc., pour Fukushima, bon. Et qui a réussi à mourir centenaire, si je puis dire, alors qu'il a été atteint à l'époque. Et c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Il y a un bouquin qui a été fait qui est en français, qui a été fait pour lui. Voilà, je ferme la parenthèse. Donc, je pense que maintenant, tous les trois, on va peut-être un peu parler d'actualité, c'est ce qui se passe en Ukraine. Alors, il y a tout l'aspect, évidemment, contre les guerres qu'il y a là-bas, mais il y a aussi un éclairage nucléaire. Alors, je crois que Christiane qui a potassé la question.
J'ai pas vraiment potassé la question.
Si, je sais.
Mais je pense qu'il y a une chose qu'on peut dire, puisque tu as parlé de bouquin. Moi, je vais parler d'un film qui est sorti dernièrement, qui est encore sur les écrans, qui a pour titre « Irradié ». Et ça, c'est un film de Riti Pan. Et il parle justement, il fait le lien entre le génocide qui s'est passé dans son pays et également tous les essais nucléaires sur les différents pays, dont évidemment le Japon. Moi, j'aimerais te poser une question qui, à mon avis, me taraude, parce que bon, vous avez fait tous les deux une sorte de constat de ce qui s'est passé, un peu de l'historique de ce qui s'est passé. Moi, j'aimerais revenir vraiment à comment, pourquoi, etc., et également aux conséquences. Donc, ma première question, ça serait, en fait, le chef d'État ou la chef d'État qui a la possibilité du bouton, même s'ils sont trois, mais s'ils sont aussi tarés les uns et les unes que les autres, ça c'est donc une personne. Je pense que déjà les gens sont dans une espèce de bulle et que c'est très difficile de voir ce qui se passe autour. Est-ce que ça veut dire pour une population? On leur demande d'ailleurs pas leur avis. Donc je voudrais savoir ce pouvoir. Est-ce que ça monte à la tête d'une certaine manière, mais quel est le rapport avec exercer ce pouvoir, d'avoir le bouton et une démocratie, entre guillemets, même si elle est pour moi totalement illusoire? Ma deuxième question, j'en profite, j'ai la parole, eh bien, c'est que j'ai constaté qu'en Ukraine, il y a 15 réacteurs du type... alors ça, écoutez, je ne connais pas très bien ces trucs-là, je me tourne. Donc 15 réacteurs, dont 2 également sont en construction. Et quand on regarde la carte de l'Ukraine et qu'on voit où sont exactement placés ces réacteurs, on voit qu'il y en a par exemple certains, faut me dire si jamais il y a un problème au niveau de la prononciation, c'est Zaporozhye, c'est ça? Enfin bon, peu importe. C'est 6 réacteurs qui sont très proches de la frontière russe. Donc, en plus de ça, j'ai appris dernièrement que certains de ces réacteurs avaient été, non pas touchés directement, mais avaient été touchés, c'est-à-dire un local près de ces réacteurs. Donc, j'aimerais revenir donc au pourquoi, comment et les conséquences.
Alors, juste pour la première question qu'a posée Christiane, devant l'évident paradoxe que certains des chefs d'État qui ont le pouvoir de déclencher des explosions nucléaires sont censément être élus de manière démocratique, donc le président des États-Unis d'Amérique, le président de la République française, jusqu'à un certain point le Premier ministre britannique. Évidemment, Poutine, officiellement, il a été élu. On ne rigole pas dans la salle. Xi Jinping, officiellement, a été élu. On continue à ne pas rigoler dans la salle. En revanche, le président indien aussi, officiellement, démocratiquement élu, quant à celui du Pakistan. Mais ce que je veux dire là-dessus, c'est que il y a un mot qui répond très bien à la question que Christiane vient de poser. Nous sommes en France, nous sommes bien un État censément démocratique. Mais il y a un mot du vocabulaire politique que tout le monde connaît ici, le domaine régalien. Le domaine régalien, bien entendu, c'est la politique étrangère et donc c'est la guerre. Et tout le monde sait quelle est l'étymologie du domaine régalien. C'est le domaine royal. Et n'oublions pas que l'homme qui a écrit la Constitution de la Ve République, qui a pris bien soin de préciser que même quand le Parlement n'est pas d'accord, la politique étrangère, c'est le domaine du président de la République. C'était donc notre cher ami Charles de Gaulle, et que Charles de Gaulle était un monarchiste. Il ne s'en est jamais caché. Hein. Bon, et la principale raison pour laquelle il n'a pas mis le comte de Paris au pouvoir, c'est que, un, c'était quand même un peu difficile, et qu'il pensait que le comte de Paris était un imbécile. Bon, il ne s'en cachait pas, il l'a bien dit. Mais c'est quand même très clair, je crois que cette notion de pouvoir régalien, en France en tout cas, c'est très clair.
Mais quand on entend, par exemple, le 24 février, Poutine dire « Pour ceux qui seraient tentés d'intervenir, la Russie répondra immédiatement et vous aurez des conséquences que vous n'avez encore jamais connues », et évidemment, je veux dire, on imagine un peu le pire.
On imagine exactement le pire, et le vrai pire, c'est que, bon, bien entendu, en ce moment, c'est comme d'habitude avec les politiciens dans ces trucs d'intimidation, c'est des bagarres de marchands de tapis, mais avec des fous furieux comme Poutine, effectivement, c'est terrifiant.
Non, moi, je refuse de dire que c'est pas un fou, c'est un type qui a une stratégie et qui est calculateur. Faut pas dire fou. Je veux dire, il y a quelque chose, il peut être, si tu veux, enfermé dans sa bulle, d'accord, mais c'est trop facile de leur donner, c'est presque une excuse, ah oui, mais il est fou. Ben non, il est pas fou. Il sait très bien où il va. C'est un nationaliste, il veut faire la grande Russie, et donc, bon, si ça veut dire qu'il va tuer des milliers de personnes, c'est pas grave.
Absolument.
Donc c'est pas de la folie, ça.
Entre autres. Je dirais que c'est pas incompatible. La folie et la stratégie, malheureusement, à mon sens, ne sont pas incompatibles, mais je vois pourquoi tu affirmes ça. Mais en tout cas, c'est très très clair qu'on peut penser que Poutine n'aura pas particulièrement de scrupules à éventuellement appuyer sur le bouton. Alors, ce qu'il faut peut-être espérer, mais on n'en sait rien, c'est que, rappelez-vous, ça s'est passé il n'y a pas longtemps, quand Donald Trump a commencé à dire des trucs bizarroïdes sur l'Iran, les généraux américains, fort heureusement pour nous, ne se sont pas lancés dans l'aventure. Mais est-ce que les généraux russes iraient
jusqu'à... Justement, le ministère de la guerre, si j'ai bien compris, il est aussi... il est absolument dans la même optique que Poutine. C'est-à-dire qu'à la limite, il serait presque pire.
Voilà, c'est ce qu'on entend aussi. Donc, l'espoir secret qu'on a d'une solution un peu comme à la Khrouchtchev ou des... où tout d'un coup, hop, on évite un leader extrêmement dangereux pour un leader simplement dangereux, il est relativement peu probable que ça se passe avec Poutine. Mais enfin, je n'ai pas d'informations sur les secrets du Kremlin, je doute que Serge en ait aussi.
Puis les conséquences, parce que on est quand même directement touché, parce qu'il faut rappeler qu'en France, il y a 56 réacteurs nucléaires. Donc si, par malheur, par calcul, par tout ce qu'on veut, ou simplement pour faire peur aux autres et puis pour avoir un autre terrain. Alors, on pense si vraiment l'Ukraine, si ça explosait là-bas, je ne sais pas ce qu'il en resterait. Donc, c'est complètement absurde. Donc, qu'est-ce qui peut se passer des conséquences?
Si tu veux, pour répondre sur la partie plus particulièrement l'Ukraine... Je pense que contrairement à ce qu'on veut nous vendre, c'est-à-dire que le nucléaire, c'est la sécurité pour fournir une énergie, bon, peut-être un peu plus chère que ce qu'on avait eu au début, etc. Or, en fait, on s'aperçoit que c'est des productions d'énergie comme ça centralisées sont extrêmement vulnérables. Et ce qui se passe en Ukraine le montre tout à fait, puisqu'il y a deux centrales qui ont été occupées, sans doute peut-être d'autres après, mais enfin, elles sont plus à l'ouest. Au contraire, ça rend vulnérable non seulement pour l'énergie, puisque il est fort probable qu'il va y avoir un arrêt d'une grande partie de l'énergie avec les conséquences pour la population dans le froid actuellement. Et la deuxième partie, je dirais pas qu'elle, oui, enfin, qui est plus grave dans la mesure où elle concerne pas uniquement les Ukrainiens, mais pourquoi pas toute l'Europe, c'est que ces centrales sont vraiment quelque chose où il peut y avoir une guerre. Mais il y a une guerre, justement. Je me rappelle très bien que quand au début de l'implantation du nucléaire, on avait soulevé en plein de choses. mais on avait soulevé risque de tremblement de terre. On nous avait dit non, on ne peut pas. Bon, ça vous rappelle peut-être quelque chose. Et puis on avait dit risque de terrorisme, risque d'attentat. Non, c'est pour tréger, etc. Or, juste très rapidement, pour ceux qui n'auraient pas suivi en détail ce qui s'est passé, Tchernobyl, je viens d'en parler, Tchernobyl a été l'armée... Russe est intervenu. Alors, il faut savoir déjà que les centrales, que il y a encore énormément de choses dans cette centrale qui sont encore en état de déchets radioactifs, pour certains un peu moins actifs, qui ont besoin d'être refroidis en permanence. Est-ce que on va pouvoir continuer à le refroidir dans les conditions dans lesquelles c'est, sachant qu'il y a eu un arrêt de la fourniture d'électricité parce qu'il y a une ligne de tension qui a été foutue en l'air, évidemment. Ils ont tiré carrément autour de la centrale. Donc ça fonctionne avec des générateurs diesel, sachant qu'il y avait 48 heures d'autonomie. Ils ont réussi à amener un peu de carburant. Donc tout ça extrêmement bancal. Je vous donnerai à la fin de mon intervention les communiqués de l'exploitant qui s'appelle qui exploite toutes ces centrales Energoatom. Voilà. D'autre part, le personnel est coincé, il ne peut plus partir depuis le 24 février. Donc vous voyez le tas de stress qu'il doit y avoir, sachant qu'ils contrôlent ce qu'ils peuvent, etc. Voilà. Un deuxième fait, c'est sur la... Je pense que j'ai dû les voter, Christiane, à Zaporizhia, où il y en a 6, effectivement. Là, pareil, ils ont attaqué, ils ont tiré, il y a un bâtiment qui était en feu. Enfin, bon, je pense que certains ont suivi de ça à très près. Donc, il faut savoir en plus que ces centrales sont dans un état assez délabrement. Enfin, il n'y a pas qu'en France qu'il y a des centrales en délabrement, puisqu'elles ont été construites il y a très longtemps. Donc, il y a eu des tas d'incidents. Voilà. Donc, elles ont besoin d'être suivies vraiment de très près. Vous voyez les gens là qui ont été attaqués, à la fois par des bombardements, ils ont tiré sur des bâtiments. Il y a un bâtiment qui a été détruit par le feu. Vous voyez les conditions, les gens qui sont enfermés là-dedans. Il y a eu quelques morts d'ailleurs dans le service de sécurité. Et je terminerai. Donc, c'est vraiment craignos. Ce que je dis là, c'est des informations qui ont été fournies par la CRIRAD, laboratoire indépendant. Enfin, j'appartiens aussi à la CRIRAD, pour ça je reçois les infos. Mais enfin, on peut les trouver sur Internet. Et vraiment, ils sont assez inquiets. Je ne suis pas genre à dire attention, il se passe des choses. Alors je lis quand même là les communiqués, enfin des extraits, je termine là-dessus, les communiqués d'Energoatom qui gère l'ensemble des centrales nucléaires en Ukraine, parlant donc des événements là dont je viens de parler. Aucun contrôle sur la situation nucléaire et radiologique de la centrale, ça c'est pas original. La situation est extrêmement menaçante et dangereuse. Les exigences en matière de sécurité nucléaire et radiologique, ont été violées. Les conséquences sont difficiles à prévoir, effectivement, on imagine. Une des dernières informations, la plus récente, un tuyau où l'eau radioactive est purifiée pour être envoyée au réacteur a été endommagé. Voilà, je ne vais pas détailler comment fonctionne une centrale nucléaire. Donc, je ne veux pas dire qu'on va tous se retrouver, vous pouvez toujours acheter, je plaisante à moitié d'ailleurs, acheter de l'iode chez le pharmacien, mais tout est possible, vraiment tout est possible. Alors, vous imaginez quoi, une centrale nucléaire en situation de guerre, des soldats autour, je ne sais pas trop quels sont leurs ordres là, des gens qui sont confinés, voilà, je termine.
Alors, il faut se souvenir, justement, tu parlais de Tchernobyl tout à l'heure, mais vous vous souvenez certainement, en tout cas certains et certaines d'entre vous, qu'on disait que n'importe comment, le nuage radioactif, il s'arrêtait, vous rappelez, aux frontières. Donc ça passait pas. C'était génial, quoi. C'était un petit nuage.
Il ne faut pas qu'on soit contre les frontières, alors.
Non, mais il ne s'arrêtait pas. Ce type de frontière existait, soi-disant, pour arrêter justement le nuage radioactif. Donc, moi, ce qui me frappe quand même, c'est que, évidemment, on peut trouver beaucoup d'informations sur Internet, etc. Mais ce qui est quand même bizarre, c'est que il y a très peu de médias qui font une analyse profonde de ce que ça peut être. C'est-à-dire, on parle de la guerre, on parle des bombardements, des peuples qui se retrouvent complètement partis d'un peu partout dans le monde, mais on ne parle pas de ce que ça veut dire et on ne remet pas en question le nucléaire. Moi, c'est ça qui me fait peur, à longue échéance.
Et je dirais qu'il y avait encore une autre couche sur le gâteau, puisque très récemment, vous savez qu'il y a une bande dessinée à succès qui est sortie, d'un certain monsieur Jean Covici, et qui était, on est en plein dans le greenwashing du nucléaire, et qui reprend tous les arguments contre le réchauffement climatique, disant mais la seule solution de ne plus émettre de dioxyde de carbone, c'est très simple, c'est le nucléaire. Et l'ironie tragique, abominable, de la publication de cette bande dessinée, juste là, quelques mois avant que, tout d'un coup, le monde entier commence à avoir peur que les centrales nucléaires en Ukraine explosent, c'est quand même assez terrible. Je voudrais rajouter là-dessus que, bien entendu, des centrales nucléaires, il n'y en a pas qu'en Ukraine. Il y en a maintenant dans un très grand nombre de pays du monde. Que les pays du monde totalement protégés de toute notion de guerre ou d'attaque par un pays étranger, il n'y en a pas vraiment des masses. Et que, par conséquent, ce que nous craignons aujourd'hui maintenant en Ukraine, nous pourrions le craindre, d'ailleurs, en Inde et au Pakistan, qui sont toujours à se faire la guéguerre, entre l'Inde et la Chine, où là, les centrales nucléaires sont également très, très nombreuses, et dans tous ces pays qui ont ces centrales nucléaires dites pacifiques et qui sont toutes potentiellement des horreurs.
Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Est-ce que vous avez des questions en particulier, peut-être des choses qu'on n'a pas suffisamment abordées ? Un micro, c'est possible d'avoir
Est-ce que pourrait y avoir un micro pour les questions dans la salle ? Il y avait là. Le micro est en train d'arriver.
Donc j'ai entendu le débat. J'ai bondi parce que j'ai entendu des trucs qui étaient... pas tout exact, parce que moi je connais très bien le monde du nucléaire. Je connais très bien le monde du nucléaire. Je voulais répondre à notre ami qui faisait une blague sur Coluche. Moi, il y en a une que j'aime bien, avec des proches. Ça va faire plaisir à Serge, qui est du Limousin, qui disait quelle est la différence entre un adulte et un enfant ? Un enfant, il joue à la guerre. L'adulte, il fait la guerre. L'enfant, il croit au Père Noël. L'adulte, non, il vote.
Elle est pas mal non plus, celle-là.
Voilà. Pour ce qui est du nucléaire, je voudrais revenir sur Serge. C'est faux, hein. Le civil est venu du militaire. Les militaires ont eu besoin du civil pour se débarrasser des choses qu'ils ne savaient pas faire. Et surtout, pour arriver à... L'investissement des civils, ça l'arrangeait parce que ça coûtait très cher. Pour ce qui est d'une centrale nucléaire, excusez-moi de le dire, c'est la machine la moins rentable du monde. On utilise 10% de l'énergie du nucléaire pour faire chauffer de l'eau et faire tourner les turbines. Vous imaginez ? 80% de l'énergie potentielle est disparue. Il faut l'évacuer en chaleur, c'est les grands panaches de fumée. Donc voilà, ce qui est du nucléaire, je veux dire, c'est... Oui, on parle de... Ouais, c'est décarboné. Mais ça, il faut pouvoir réfléchir que... Oui, la production, le fonctionnement, mais... Quand on va en Afrique ou ailleurs pour sortir l'uranium, pour retraiter l'uranium, combien de carbone on gaspille ? Quand on construit une centrale, demandez à Bug et machin, quand ils ratent leur machin, combien de carbone on dispose ? C'est pas aussi simple que ça. Il faudrait mesurer la chose là-dessus. Qu'est-ce que je veux dire d'autre ?
Ça a probablement été mesuré, ça doit se trouver quelque part.
Hein. Je pense que... oui, je suis d'accord avec Serge. C'est en 73 qu'il fallait se lever. Maintenant, elles y sont là. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait avec ces saloperies ? Quand tu disais Tchernobyl, dans 150 000 ans, Tchernobyl, la radioactivité sera deux fois moindre. 550 000 ans. Tu dis, on pourrait chauffer l'électricité. Dans 150 000 ans, on sera où, nous ? Je pose la question à tous. Hein. Bon. Voilà. C'est un truc à long terme. C'est un pari sur... c'est pas un pari. Bref, démerdez-vous plus tard, hein.
Ben, c'est après nous le déluge.
Voilà, après nous le déluge.
Il y avait une question
voilà.
Là.
Voilà, ce que je voulais dire, je voulais corriger certaines choses.
Merci.
Oh oui, Nagasaki, c'est 40 kilotonnes. On a des bombes de 10 mégatonnes. Vous faites la différence. C'est le progrès.
On a aussi des micro-bombes nucléaires, hein, pour ceux qui aimeraient.
Oui, tu disais tout à l'heure que...
Non, c'est bon, c'est parfait.
Il fallait à peu près 3 personnes pour appuyer sur un bouton en France.
Non, c'était en Russie.
En Russie. Oui, oui, ah, oui, bah, j'allais te poser la question pour la Russie, justement.
C'était 3 personnes.
Donc, j'ai la réponse. Bah,
d'après les dernières infos. Hein.
Et du coup, en France, alors, comment ça se passe?
Pour autant que je le sache, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que une fois que le président est censé donner l'ordre, bon, bien entendu, vous savez qu'il y a toujours un gars derrière lui avec une valise, avec les fameux codes nucléaires, et que dans les sous-marins nucléaires et les bases, etc., enfin, apparemment, maintenant, en France, c'est principalement dans les sous-marins nucléaires qu'il y a les missiles avec les bombes. Ils sont censés vérifier par les codes. Mais est-ce que le président est censé être stoppé ou doit consulter d'autres personnes au moment de donner la décision des codes? Ça, pour l'instant, Serge, tu m'arrêtes si je dis une bêtise, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait quelqu'un qui le... Ah, il y a Hugues qui est en train de dire quelque chose. Vas-y, viens, il y a le micro là.
Oui, vas-y. Juste un complément, déjà.
Vas-y.
Attends, Serge, on m'avait donné la parole. D'après ce que je sais, mais sachant aussi que nous ne savons pas tout ce que nous voudrions savoir, il y a un contrôle d'un officier très 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 supérieur qui est le chef général des armées ou quelque chose comme ça.
Le chef d'état-major général.
Le chef d'état-major général qui donnerait une contre-signature au cas où il y aura un coup de folie de notre président. Ceci dit, il n'est pas impossible qu'il y ait deux fous.
Voilà, comme en Russie.
Non, il n'y a pas de contrôle.
Attends, il y avait quelqu'un qui était contrôlé fou.
Il
n'y
a pas de contrôle en France.
Non, ils sont trois en fait.
En Russie, ils sont trois.
Ils sont trois, il y a le président de la République. Il y a le chef des armées,
ouais.
Et comme
voilà.
Tu le disais
et
tout
c'est
à l'heure,
en Russie.
Oui,
et le commandant, du sous-marin également, qui doit introduire le code nucléaire. Voilà, ils sont trois.
Ma complément de réponse, c'est quelqu'un qui a travaillé sur le sujet, s'appelle au moins sur les États-Unis, s'appelle Stanley Kubrick, docteur Folamour. Et deuxième complément. Il y a eu des incidents, alors là, pour des raisons techniques, notamment, je crois, en Russie, et c'est un officier russe qui a réussi à bloquer le truc, effectivement, mais pas parce que, enfin, il s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et s'il avait été jusqu'au bout, bon.
Mais il y a
aussi, il n'y a pas que le bouton, hein, il y a aussi, vous savez, la technique, hein, c'est ça.
Voilà, il y a eu un glitch technique, et des gars avaient reçu. Croyait-il, voilà. L'ordre de lancer des trucs. Puis ils se sont dit, il y a un schpounz. Voilà. Heureusement, ils ont eu l'idée de vérifier.
Voilà. Mais c'est bon.
Il y a Monique qui nous fait des signes désespérés.
Non, je pense que maintenant, il faut arrêter.
J'ai un petit truc à garder un peu. Mais vas-y, Christian.
Non, moi, je suivais Monique. Non, je vous disais simplement que, en cas de bug, on est mal.
Non, puisqu'on est la dernière intervention sur le sujet... je tenais quand même à donner la position des apatistes sur ce qui se passe en Ukraine, qui intègre d'ailleurs les choses qu'on a dites, d'autant plus que la campagne qu'ils lancent, elle démarre aujourd'hui, ce dimanche. Donc il y a eu deux textes qui ont été publiés. Vous pourrez voir l'intégralité du texte sur un site qui s'appelle Enlace, E-N-L-A-C-E, Zapatista. Allez, vous inquiétez pas, vous pouvez avoir la traduction en français. Donc, deux choses que j'ai extraites sur ces textes. Je ne voulais pas qu'on se quitte avant de lire ça. Je trouve que c'est vraiment très bien. Il faut arrêter la guerre maintenant. Si elle se poursuit, comme on peut s'y attendre, si elle s'intensifie, alors peut-être qu'il n'y aura plus personne pour décrire le paysage après la bataille. Donc ça, c'était début mars. Et donc, par rapport à l'appel d'aujourd'hui, enfin qui démarre aujourd'hui, nous appelons à des mobilisations et manifestations contre toutes les guerres capitalistes actuellement en cours. Pas seulement en Ukraine, aussi en Palestine, au Kurdistan, en Syrie, sur les territoires mapuche et autochtones de toute la planète. Et là où tant de processus libertaires sont attaqués, poursuivis, assassinés, réduits au silence. Voilà, je veux quand même terminer sur cette phrase. Excusez-moi, je suis un peu ému.
Merci à toi, merci à Serge, merci à tous et toutes d'être venus pour ces 40 ans de Radio Libertaire. On espère vous retrouver à 80 ans pour Radio Libertaire. On ne sera peut-être pas tous là, mais peut-être que les jeunes auront pris la suite pour continuer ce combat pour la paix.
la liberté de tous les peuples, y compris les Ukrainiens aujourd'hui. On va terminer sur la Machnovitchna, parce qu'ils sont aux premières loges, si j'ose dire. Nos camarades ukrainiens sont en grande difficulté. On a, à la Fédération anarchiste, lancé une souscription pour soutenir les anarchistes ukrainiens, qui sont dans un grand débat, il faut bien le dire. Est-ce qu'on doit prendre les armes contre l'impérialisme russe, ou est-ce qu'on doit se limiter à un pacifisme intégral ? Bon, la décision leur appartient. Certains groupes combattront, d'autres déserteront. De toute façon, on les soutient. Et pour...
moi aussi, je suis...
Et donc, non, il n'est pas question de leur livrer des armes. Ils se débrouillent pour ça, les armes. Il y a plein de marchands d'armes partout dans le monde. C'est bien le bordel, d'ailleurs. Il n'y aurait pas de marchands d'armes, il n'y aurait pas de guerre. Voilà. Et pour clore ces 40 ans, donc on remercie à tous les auditeurs qui ne sont pas là, et les auditrices qui ne sont pas là, et à tous ceux qui sont venus durant ces deux jours pour nous soutenir, et surtout soutenir votre radio, parce que Radio Libertaire, ce n'est pas la radio de la Fédération anarchiste seulement, c'est la radio de tous ceux qui soutiennent le mouvement libertaire dans ce pays et ailleurs. Donc, merci d'être venus. Et on va terminer sur un grand cri, ceux de nos camarades anarchistes ukrainiens des années 1920-1921, interprété par Serge Djirio. Makhnovichna.
Makhnovchina, Makhnovchina, tes drapeaux sont noirs vent. Ils sont noirs de notre peine, ils sont rouges de notre sang. Ils sont noirs de notre peine, ils sont rouges de notre sang. Par les monts et par les plaines, dans la neige et dans le vent, à travers toute l'Ukraine, se levaient nos partisans. À travers toute l'Ukraine se levaient nos partisans. Au printemps, les traités de Lénine ont livré l'Ukraine aux Allemands. À l'automne, la Makhnovchina les avait jetés au vent. À l'automne, la Makhnovchina les avait jetés au vent. Makhnovchina, Makhnovchina, armée noire de nos partisans qui combattaient en Ukraine contre les rouges et les blancs. Qui combattaient en Ukraine contre les rouges et les blancs. L'armée blanche de Denikine est entré en Ukraine en chantant, mais bientôt la Makhnovchina l'a dispersée dans le vent. Mais bientôt la Makhnovchina l'a dispersée dans le vent. Makhnovchina, Makhnovchina, armée noire de nos partisans qui voulaient chasser l'Ukraine à jamais tous les tyrans, qui voulaient chasser l'Ukraine à jamais tous les tyrans. Makhnovchina, Makhnovchina, tes drapeaux sont noirs dans le vent. Ils sont noirs de notre peine, ils sont rouges de notre sang. Ils sont noirs de notre peine, ils sont rouges de notre sang. Makhnovchina, Makhnovchina, tes drapeaux sont noirs dans le vent. Ils sont noirs de notre peine, ils sont rouges de notre sang. Ils sont noirs de notre peine, ils sont rouges de notre sang.